On va lire ensemble un texte dans la Bible, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 31 et les versets 20 et 21. Deuxième livre des Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Les livres des rois et les livres des Chroniques sont ce que l'on appelle des livres historiques. Et en fait, ils reviennent sur l'histoire à une certaine époque du peuple d'Israël et des peuples alentours. Et ça rappelle également pas mal les biographies de plusieurs de ces rois. Et là, nous sommes avec le roi Ézéchias. Et du roi Ézéchias, voici ce qu'il est dit en résumé, si vous voulez. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 31 et verset 20. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 31 et verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Quel bel hommage, n'est-ce pas? Quel bel hommage. Il fit tout ce qui est bien, tout ce qui est droit, tout ce qui est vrai. Sans doute aurions-nous pu attribuer à ce roi un autre texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Je vais vous le lire, ce texte-là, et je vais également vous l'afficher à l'écran. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 32 et au verset 8, il est dit ceci: « Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. » D'autres traducteurs ont traduit ainsi: « L'homme au noble cœur n'a que de nobles pensées, et il n'intervient que pour de nobles causes. » Je répète, « L'homme au noble cœur n'a que de nobles pensées, et il n'intervient que pour de nobles causes. » Un autre traduira: « Il est digne de respect, il a des intentions droites et il accomplit des actes de valeur. » Pourrait-on dire cela de nous? On devrait, il faudrait, ce serait bien, on peut s'améliorer. De la noblesse dans le caractère et dans les actes. Et manifestement, Ézéchias avait des qualités morales qui étaient plutôt élevées. Et il est évident que pour accomplir un tel projet, je vous répète, ce qu'il s'était destiné à faire, il avait recherché son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. En fait, il s'était fixé un cap, il s'était fixé un but, plaire à Dieu. Ça se résume à ça. Il s'était fixé comme but de plaire à Dieu. Il est évident que pour accomplir un tel projet, c'est le titre du message, il faut de la persévérance. Nous lirons plusieurs passages différents, et dans ces passages différents que j'ai choisis, soit il est question de persévérer, soit il est question de demeurer. Donc ça veut dire la même chose dans les textes que nous partagerons. Il est évident que j'ai besoin de persévérer dans la recherche du plan parfait, dans la recherche du conseil de Dieu, dans la recherche des intentions de Dieu qui sont de nobles et de bonnes intentions. Mais je crois que la persévérance, ce n'est pas un don. Je ne crois pas que c'est un don, la persévérance. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que ce soit une qualité innée. Quelqu'un qui serait né avec la persévérance. Ce serait bien, quand même. Hein ? Bref, je persévère, mais je n'ai aucun mérite, c'est facile, je suis né comme ça. Ce serait facile, hein ? Ce serait bien. Manifestement, la persévérance, non. Ce n'est pas inné. La persévérance est juste le fruit d'une décision volontaire. à un moment donné, je décide de m'accrocher, je décide de résister, je décide de pas renoncer, de pas craquer, de pas me décourager. Alors je persévère. C'est une décision volontaire. J'ai lu quelque chose de très intéressant sur un homme dont vous avez peut-être entendu parler un jour. Ça vous dit quelque chose ? Certainement, hein ? Ouais. Abraham Lincoln. Continuer de faire ce qu'on a résolu contre vent et marée. J'ai trouvé en quelques lignes la biographie de cet homme. Vous savez qu'il a été président des États-Unis, et non pas des moindres, même si les biographies de ces grands hommes tendent à garder que les bons aspects. Il y a quand même eu beaucoup plus de bons aspects que de mauvais, d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Abraham Lincoln est né en 1809. Quelques années plus tard, en 1818, il perd sa maman, décès de sa mère. Quelques temps plus tard, 1832, il se présente aux élections législatives et il est battu. En 1932, la même année, il perd son boulot. Il veut faire du droit, mais il est refusé au concours d'admission. En 1933, l'année d'après, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et il fait faillite avant la fin de la même année. Il mettra 17 ans à rembourser cette dette. En 1835, deux ans plus tard, il a un projet de mariage, il est fiancé, sa fiancée meurt. 1836, il fait une grave dépression nerveuse et il reste quasiment 6 mois au fond de son lit, impossible de se lever. 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants dans son état, l'Illinois, et il est battu. En 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès, après avoir été élu une première fois en 1846. 2 ans plus tard, il se représente, mais il n'est pas réélu. Pourtant, il a fait du bon boulot. 1849, il postule pour un emploi et il ne l'obtient pas. En 1854, il se présente au Sénat des États-Unis, il est battu. En 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la Convention nationale du Parti républicain. Il obtient moins de 100 votes, une humiliation. Et 2 ans plus tard, il se présente au Sénat, il est encore battu. Et 2 ans plus tard, il se présente pour être président des États-Unis et il est élu. Dites, c'est pas de la persévérance, ça ? Franchement, c'est de la persévérance. Hein. En plus, il est élu quasiment l'année où se déclenche la guerre de sécession, une guerre civile, hein, qui va ruiner le pays. Hein. Et il va tout faire pour essayer de maintenir l'union. Vous savez qu'à l'époque, une des grandes problématiques était l'esclavage. Les États du Sud contre les États du Nord. Et il a réussi à faire voter un amendement à la Constitution, 13e amendement, pour arrêter l'esclavage. Bref, il est élu en 1860, il est réélu en 1864, et en 1865, il est assassiné. Néanmoins, regardez un peu ce que la persévérance peut faire. Il y en a 50 qui se seraient découragés avant le tiers de ce qui lui est arrivé, c'est pas vrai ? Les gens, ils auraient dit, je ne suis pas fait pour ça, j'ai la guigne, ça ne fonctionnera jamais. Quelle persévérance. Ah, peut-être que vous avez dans l'idée de devenir un jour président des États-Unis, je ne sais pas, mais persévérez. Persévérez. Pas forcément pour ça, mais pour les projets que vous avez. Évidemment, on peut avoir des projets qui sont insensés, qui ne servent à rien, donc ça ne sert à rien de poursuivre de telles marottes, évidemment. Mais j'en viens à l'exemple d'Ézéchias, qui est un exemple à suivre. Pourquoi est-ce qu'il s'est engagé ? Dans quelle voie s'est-il engagé ? Il s'est engagé pour Dieu, pour les commandements de Dieu et pour le service de Dieu. C'était ça le plus important pour lui. C'était la priorité des priorités, si vous voulez. C'était cela qui était important pour lui. L'apôtre Paul va rappeler cette vérité à un jeune croyant qui exercera le ministère, il s'appelle Timothée. Et quand il s'adresse à Timothée, il va lui dire dans sa première lettre au chapitre 4 et au verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans toutes ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans la Bible, c'est la seule fois où il est écrit cette drôle d'expression, tu te sauveras toi-même. Parce que tout dans la Bible nous rappelle qu'on ne se sauve pas soi-même. On est d'accord, hein ? C'est le sang de Jésus qui nous purifie, c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui nous sauve. Ce n'est pas par les œuvres, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est par la grâce. Mais là, il n'est pas question de se sauver le salut, il est peut-être question plutôt de ne pas perdre son salut, de ne pas perdre cette grâce. Comment pourrait-on la perdre ? En arrêtant de persévérer, en ne veillant pas sur son enseignement, en n'ayant pas soin de l'état de son âme, là on peut tout perdre. Et l'apôtre Paul dit « Veille et persévère, tu te sauveras toi-même ». Alors, je pense qu'il est important de persister quand tout nous invite précisément à ne pas persévérer. J'ai noté, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais j'ai noté d'autres passages. Par exemple, deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, il est dit ceci « Aussi, au verset 4, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous persévérez malgré les circonstances. Vous persévérez et pourtant les apparences, elles sont tellement difficiles. Dans l'Apocalypse, dans les lettres qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, il est dit au chapitre 2 et au verset 3, « Je sais, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Affliction, douleur, difficulté, persévérance malgré tout, persévérance. Et il y a d'autres passages, ceux-ci, je vous les ai mis à l'écran. Avec, je reviens sur ce que j'ai inscrit en dessous, qui est inspiré d'un poète anglais des années 1700. Ce n'est pas par la force, mais par la persévérance que se font les grandes choses. Et regardez ces textes qui redisent la même chose. Romains chapitre 5, verset 3. « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Et si vous lisez le texte en entier, il nous est dit que la persévérance produira la victoire et la victoire amènera l'espérance. Affliction, persévérance, victoire, espérance. Hébreux chapitre 6, verset 12, « Ceux qui, par la foi et la persévérance, vont hériter des promesses. » Un peu plus loin au chapitre 10, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Alors, l'important, c'est qu'il y ait une récompense dans la marche avec Dieu. Et on ne vit pas pour la récompense, mais elle est là. Et on ne va pas s'en priver. Une récompense, c'est le ciel. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On est là pour rendre témoignage aussi. Ça signifie que ce serait dommage de s'arrêter dans sa course, ce serait dommage de se lasser, de se décourager. Mais toute l'Écriture nous encourage, et Ézéchias le premier, voici ce que fit Ézéchias, il fit ce qui est bien, il fit ce qui est droit, il fit ce qui est vrai, il était digne de respect, il avait des intentions droites, il accomplissait des actes de valeur, il avait un cœur noble pour de nobles pensées, et il n'intervenait que pour de nobles causes. Si nous persévérons dans les voies de Dieu, c'est pour de nobles causes. Si nous persévérons dans les voies de Dieu, c'est pour avoir de nobles pensées. Et si nous persévérons dans la marche avec Dieu, c'est pour garder un cœur vrai, droit et intègre. Et tout cela, évidemment, ça peut s'accomplir, ça peut se faire au travers de quelques aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Je vous rappelle que persévérer, ou demeurer si vous voulez, ça signifie durer, dans la durée, durer. Ça signifie séjourner, ça signifie résider. Ça signifie, j'aime bien ce mot, s'éterniser. En général, quand on dit de quelque chose que ça s'éternise, c'est souvent négatif. Vous avez remarqué ? Pourtant, s'éterniser, quand on pense à l'éternité, moi, je voudrais bien m'éterniser un petit peu là-haut. Hein. Pas vous ? Et c'est pas grave si c'est long. Hein. C'est pas grave. Hein. J'aimerais bien m'éterniser un peu dans la présence de Dieu. J'aimerais bien m'éterniser dans de bonnes actions. J'aimerais bien m'éterniser avec de bonnes pensées. J'aimerais bien. Ça, c'est positif. Durer, demeurer, prendre le temps qu'il faut pour cela, et c'est ce que l'on fait, évidemment, tous les dimanches matin. Alors, on va s'arrêter sur quelques aspects. Vous devez persévérer, premièrement, dans l'amour de Christ. On va lire ensemble, si vous avez votre Bible, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 9. Jean, chapitre 15 et verset 9. Jean, chapitre 15, verset 9, premier aspect, demeurez, demeurez dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Christ. Jésus dit ceci, Jean, chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Tout à l'heure, quand on répétait les chants, il y a eu une confusion sur un chant, et Benjamin, qui est parti faire répéter les enfants maintenant, a fait toute l'introduction du chant, et je ne reconnaissais pas l'introduction. Je me suis dit, c'est bizarre. Et bon, il est arrivé à la fin de l'introduction, et puis personne n'a démarré. Il nous a regardé, l'air de dire, il se passe quoi ? Et en fait, il avait introduit un autre chant, parce que quand j'ai envoyé la liste des chants, j'ai noté le numéro et j'ai mis le début du chant « Dans tes bras ».« Dans tes bras, je viens me blottir ». Et lui, quand il a vu « Dans tes bras », il a pensé à un autre chant. « Dans tes bras d'amour ». Alors, il jouait ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, c'est pas le bon chant ». J'ai bien compris. Ouais. Quand on imagine notre relation avec Dieu, on imagine ces bras d'amour qui viennent nous enserrer. Alors, on est plus ou moins tactile, on aime plus ou moins ça. Mais c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, les gens jouent beaucoup sur l'affect. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens parlent de Dieu, ils insistent sur le côté amour. N'oublions jamais le côté justice, le côté sainteté, le côté divin. Ça en fait partie aussi. Mais voilà, on aime ce côté, si je pouvais être serré dans ces bras d'amour. Ouais, certainement que c'est important. Mais vous en conviendrez, il y a quelque chose de miraculeux dans l'amour de Christ pour nous. Il y a quelque chose de miraculeux parce que c'est divin. L'amour de Jésus est divin autant que Christ a été divin. Et puis cet amour qu'il a manifesté à notre égard jusqu'à en témoigner en donnant sa vie à la croix, bien évidemment, vous le savez. Mais je crois que cet amour a des facultés que l'amour humain n'a pas. L'amour de Dieu guérit vraiment, vraiment. L'amour de Dieu est capable de guérir l'âme, ce qu'on a du mal à faire. Hein. On se fait soigner, on essaie de rencontrer des spécialistes qui nous aideront, mais on n'y arrive pas. Il y a des blessures, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut guérir ces blessures. Donc on en parle de l'amour de Christ, on en parle de l'amour de Dieu et on ne cesse de dire que c'est important, mais c'est tellement vrai, l'amour de Christ qui est capable de restaurer celui qui est éteint, abîmé par la vie, fracassé. Je veux bien croire, et c'est une réalité, je veux bien croire qu'il y a des évidences, j'entends par là les souffrances, les cicatrices qui marquent nos âmes, qui marquent nos corps, elles sont là. On ne peut pas les gommer, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les effacer. Mais vous ne croyez pas qu'on puisse guérir de ça ? Le monde semble nous dire qu'on ne peut pas guérir, on fait avec, on ne peut pas totalement être guéri. Oui, mais c'est sans l'aspect miraculeux quand même. Avec Christ et le miracle, tout est possible. Je ne sais pas si Dieu va le faire, je ne sais pas comment Dieu le fera pour vous, je ne sais pas jusqu'où il a l'intention d'aller. Mais je crois qu'il est capable de le faire. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de parfait. La grâce divine est quelque chose de parfait. Alors, bien-aimés, vous avez besoin de demeurer dans cet amour de Christ. Persévérer dans cet amour de Christ. Parce que le diable, et vous l'avez entendu tout à l'heure, fera tout pour vous tromper, il fera tout pour vous mentir, il fera tout pour vous dire « non, c'est pas comme ça, non, c'est pas vrai, non, c'est pas fait pour durer ». Je crois que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est fait pour durer. Amen. Amen. C'est fait pour durer, et c'est fait pour durer éternellement. Alors si vous n'allez pas bien, c'est pas parce que Dieu vous aime moins, c'est parce que vous vous êtes peut-être écarté de cette présence divine, de cet amour divin. Si vous n'allez pas bien, c'est pas parce que Dieu ne fait pas son boulot, ne fait pas son travail, mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas voulu jouer le jeu. Si vous voulez que Dieu guérisse votre cœur, ben il faut l'ouvrir, votre cœur. Il faut l'ouvrir. Si vous ne l'ouvrez pas à Dieu, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il y a des choses, c'est notre jardin secret, c'est personnel, on n'en parle à personne. Vous avez raison, non ? Vous avez raison d'en parler à personne. Mais s'il y a bien une personne à qui il faudrait en parler, c'est à Dieu. C'est à lui, certainement. Si vous ne lui en parlez pas, évidemment, ce sera compliqué. Et je crois qu'il faut oser, on va le dire comme ça, oser le changement. Il y a des gens qui voudraient bien que ça change, mais ils ne veulent pas changer. C'est compliqué, hein ? Ah, il faudrait que ça change, il faudrait que ma vie elle soit différente. Ok, d'accord, voilà ce que je te propose. Tu vas déjà changer ça, ça, ça et ça. Ah non, non, moi je ne change rien. Ouais, ben ça ne changera pas alors. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'en paraît. Ouais, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'en paraît. Parce qu'on aimerait bien ne pas avoir tous les inconvénients de notre vie sans rien changer à notre vie. On voudrait bien être débarrassé de tout ce qui nous entrave, comme des boulets que l'on a aux pieds, mais pour ça, il faut... Je ne sais quel miracle, mais nous, on ne changera pas. Ça ne marchera pas. Il faut oser le changement. Laissez Dieu, finalement, opérer un changement. En fait, si votre voiture tombe en panne, que vous allez au garage, ou que vous allez trouver quelqu'un qui répare bien les voitures, et que c'est un bon diagnostiqueur, et il vous dit « Ah, c'est telle pièce qui est en panne, l'alternateur, ou que sais-je, c'est en panne, il faut le changer. » Et que vous dites « Ah non, non, moi je ne veux pas le changer, mais je veux que la voiture, elle marche. » Alors, vous ne la réparez pas. Non ? Là, vous comprenez bien. Hein ? Quand on parle du cœur, c'est plus compliqué. Mais là, sur la voiture, ça marche bien. Hein ? Vous avez bien saisi. Si vous voulez que Dieu répare, laissez-lui mettre une pièce neuve. Laissez-lui mettre une pièce neuve. Et je crois que Dieu est capable de réparer. Quelquefois, il ne change pas la pièce. Il la réinitialise, si vous voulez, il la remet en état de marche. Mais d'autres fois, il faudra sans doute la changer. Alors, osez le changement. Laissez-le vous changer. C'est fou, comme du bout des lèvres, c'est facile à dire, et que c'est si compliqué à faire en réalité. Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il faut persévérer comme Monsieur Abraham. Eh ouais. Parce qu'une fois on rate, deux fois ça ne marche pas, trois fois on subit un échec et on est humilié, etc. Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Et ce n'est pas parce que je ne change pas que le monde entier devrait changer pour mes beaux yeux. Et ce n'est pas Dieu qui changera, c'est vous qui devez changer. C'est nous qui devons demeurer dans cet amour de Dieu pour le laisser réparer et opérer des changements dans notre cœur. Le deuxième aspect... qui n'est pas négligeable non plus, c'est demeurer dans la parole de Christ. Jean chapitre 8, Évangile de Jean chapitre 8, verset 31. Évangile de Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. » Vous savez quelle a été la réponse de ces Juifs ? C'est le texte qui suit. Ils vont dire « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Voyez, Jésus dit « Demeurez dans ma parole » et eux disent « Nous avons la parole de nos pères. » C'est ça qu'ils disent. Tu nous demandes de nous confier en tes mots, ta parole, ce que toi tu nous dis, mais on a quand même un background, on a quand même un passé, on a quand même un héritage. Sauf que l'héritage l'est trompé. Parce que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez enfin libres. Ce à quoi ils répondront, Mais nous ne sommes pas esclaves. Nous avons Moïse, nous avons Abraham, pas Lincoln, hein. Abraham le patriarche. Nous l'avons pour nous. Demeurez dans la parole de Christ, persévérez dans la parole de Christ, parce que vous savez quoi ? Avec lui, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'exagération. Vous rencontrerez plein de gens qui ne cesseront de vous dire « Tu es quelqu'un de bien, tu es formidable, extraordinaire, etc. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de le croire, ce n'est pas vrai. Non. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Par contre, Dieu change notre caractère et notre vie. Oui, mais regardez le monde tel qu'il est. Hein. On entend, surtout quand les gens sont morts d'ailleurs, hein. Les chroniques nécrologiques, elles sont pas mal quand même. Hein. Quand les gens sont morts, c'était les gens les plus parfaits de la Terre. On ne leur a pas dit quand ils étaient vivants. Hein. Ouais. Non, la vérité, elle sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche des hommes, pas de la bouche de ceux qui vous entourent. Ils veulent être gentils avec vous, et c'est tant mieux. Ils préfèrent les gens gentils que les gens méchants, évidemment. Évidemment. Mais croyez-moi, dans la parole de Christ, dans la parole de Dieu, en fait, dans la Bible, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas un double langage. Je te dis ça, mais en fait, je vais faire l'inverse. Non. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. On a besoin d'être attentif, d'écouter. Quand Dieu dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et si tu ne crois pas, tu seras condamné, ça arrivera. Que vous le vouliez ou pas, ça arrivera. Et vous pouvez dire, mais Dieu est amour, il ne permettra pas que l'enfer existe. Il y a même... de tout temps. Hein. Il y a même des gens très versés dans la Bible, des théologiens, voire des pasteurs, des évangélistes, etc., qui sont arrivés, après des années de ministère, à dire « l'enfer n'existe pas, tout le monde ira au ciel ». Vous voyez comme on peut s'égarer, comme on peut s'égarer. On ne va pas trahir la parole divine. Il a dit des choses claires. Alors, c'est de la vérité dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? Moi, j'ai besoin de la vérité. Pas d'une pseudo-vérité, d'une demi-vérité, les trois quarts d'une vérité. J'ai besoin de la vérité. L'enseignement de Jésus, et vous le voyez quand il discutait avec les pharisiens, quand il allait vers les uns, les autres, dans le temple, même à l'âge de 12 ans d'ailleurs, tout le monde était estomaqué par les paroles qui sortaient de sa bouche. Il parlait comme ayant autorité. Il n'a que 12 ans. Il réfutait les pharisiens, les docteurs de la loi. La parole dans sa bouche était une parole d'autorité, était une parole de sagesse, une parole de compassion, une parole d'amour, une parole qui révélait les choses. Quel exemple ! Mes bien-aimés, quelle source d'inspiration ! Que voulez-vous dire à ceux qui vous entourent ? Sinon, la parole de Christ. Si vous êtes capable de dispenser la parole de Dieu, mais ça va être une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Si vous essayez de le faire avec vos mots, ce sera pas mal. Mais ce ne sera pas forcément ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Vous allez leur dire de prendre courage, que tout va aller, que les choses vont changer, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont précieux, qu'ils vont bien, etc. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut leur dire à ce moment-là, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Peut-être qu'à ce moment-là, Dieu veut leur dire, tu es pécheur, tu vas en enfer, repens-toi. C'est un message de grâce. C'est aussi un message de grâce. Et ça, c'est... qu'au contact de la parole de Christ, évidemment, que Dieu peut nous inspirer. J'aimerais vous proposer un défi pour la semaine qui vient. J'aimerais simplement que tous les matins, vaut mieux faire ça le matin, tous les matins, avant de partir bosser ou de commencer votre journée, demandez à Dieu qu'il vous donne une parole pour la journée. Demandez à Dieu qu'il vous donne une parole pour la journée. Et puis vous prenez votre Bible, vous n'attendez pas que simplement ça vienne comme ça, bien que ça puisse, mais vous allez prendre votre Bible et vous allez feuilleter, lire. Je suis convaincu que tous les jours, Dieu va vous donner une parole. Elle sera peut-être longue comme ça ou elle sera peut-être courte comme ça, et vous donnera une parole. Soit elle sera pour vous, soit vous allez l'utiliser dans la journée pour quelqu'un. Vous allez voir. Mettez Dieu à l'épreuve, mettez-le au défi. Et puis on en reparle la semaine prochaine, vous me dites si ça a marché ou pas. Si ça n'a pas marché, mais j'ai confiance, ça va marcher. Forcément, forcément. Troisième point, demeurez dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, demeurez dans la grâce de Dieu. Actes chapitre 13, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Actes chapitre 13 et verset 43. L'apôtre Paul prêche. Il a prêché dans une synagogue. Ça a tellement plu que plusieurs dans la synagogue lui ont demandé de revenir la semaine d'après pour parler à nouveau de ce message de l'Évangile. Actes chapitre 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Restez attachés, frères et sœurs, à la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que par la grâce de Dieu, nous supportons les difficultés. Sans la grâce de Dieu, ouf, c'est des fois difficile. Par la grâce de Dieu, nous supportons les difficultés, nous supporterons les injustices, nous supporterons les violences, nous supporterons les colères. En fait, j'ai envie de dire que demeurer et persévérer dans la grâce de Dieu, c'est le cadeau de la présence divine en toutes circonstances. C'est le cadeau de sa présence dans toutes les circonstances. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Il est dit, un peu plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 14. Au chapitre 14, on va y venir dans un instant, et ce sera en fait le dernier point, mais je vous le cite quand même. Au chapitre 14, il va demander à ses bien-aimés qui sont près de lui de persévérer dans la foi. Ça va venir, hein, mais dans la grâce aussi. Vous savez pourquoi ? Parce que quelques heures avant, Paul a été lapidé. Il a annoncé Christ, il a annoncé Jésus. La récompense, c'est qu'on l'a quasiment mis à mort. Et vous, vous venez d'accepter Christ et vous vous dites, ouh là là, il pourrait m'arriver la même chose. Ouais. Mais persévérez dans la grâce, bien-aimé, persévérez dans la grâce. Je crois que si l'on est sauvé par grâce, on est guéri par grâce, on est délivré par grâce. Comme je l'ai mis à l'écran, c'est la grâce, c'est la force dans la faiblesse. La grâce, c'est la lumière dans la nuit. C'est la lumière dans les ténèbres, c'est la paix dans les tempêtes. Dans un psaume, le psaume 107, et au verset 23, il est dit ceci, psaume 107, verset 23, écoutez donc. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qui l'exalte dans l'assemblée du peuple et qui le célèbre dans la réunion des anciens. Plaise à Dieu que dimanche prochain, vous puissiez louer l'Éternel pour sa bonté, parce que vous aurez demeuré dans sa grâce toute la semaine. Vous serez restés persévérants, demeurant dans sa grâce, et le Seigneur vous aura accompagné au travers des difficultés qui peut-être vont arriver cette semaine. Et enfin, dans la foi, avant ma conclusion, parce que ça c'est le plan parfait, dans la foi, c'est ce que disait l'apôtre Paul, persévérez dans la foi au milieu des épreuves et des difficultés. Bien-aimés, si nous ne persévérons pas dans la foi, nous perdons notre essentiel. On a chanté pendant le temps de Sainte-Cène, « Tu es mon essentiel ». Si vous perdez la foi, perdez votre essentiel, évidemment. Vous perdez ce qui vous fait avancer. La foi, c'est indispensable. D'ailleurs, voyez les conséquences. Paul, je vous l'ai dit, a été lapidé. Il dira par ailleurs qu'il a souvent été en danger parmi ceux de sa nation, parmi les étrangers. Il a fait plusieurs voyages missionnaires. Néanmoins, il dira ceci dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Restez dans la foi pour être dans la joie. Restez dans la foi, persévérez dans la foi pour être dans la joie. Bien-aimés, je crois qu'accepter les épreuves et continuer avec sérénité, ça c'est miraculeux. Vous relirez si vous voulez Hébreux chapitre 11. Il y a plusieurs passages intéressants, le verset 10, le verset 13, le verset 19, verset 24, verset 35. Hébreux chapitre 11. On parle de ceux qui par la foi ont été maltraités, ont souffert, n'ont pas obtenu l'héritage. Ils ne l'ont vu que de loin. Ils ont été sciés en deux dans des troncs d'arbres. On les a fait souffrir, mais d'une manière épouvantable. Néanmoins, ils étaient dans la foi et ils ont atteint la perfection. Ils sont au ciel. Ils sont au ciel, ces frères et sœurs. Alors, ça signifie que si je puis rester dans la foi, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement de ce que Dieu m'a demandé de faire. Et Paul dit, je suis heureux de ce que j'ai fait, je suis resté dans la foi, j'ai accompli le plan parfait, le plan de Dieu. Bien aimé, le plan parfait, ce n'est pas celui que vous avez imaginé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 40 ans. Le plan parfait, c'est celui qui a été imaginé il y a des milliers d'années pour vous. C'est le plan de Dieu pour vous. C'est ça le plan parfait. Alors vous pouvez entrer dans ce plan parfait. Souvenez-vous, et c'est le mot de la conclusion, il faut demeurer dans l'amour de Christ, parce qu'il y a quelque chose de miraculeux et de divin dans cet amour-là. Il guérit, il répare. Il faut rester dans la parole de Christ, parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a que sagesse, compassion, révélation dans cet amour-là. Il faut rester dans la grâce de Dieu, parce que face aux circonstances, ce sera le cadeau de sa présence pour vous, chaque jour, chaque instant, chaque heure. Et puis restez dans la foi parce que c'est indispensable et c'est essentiel. N'oubliez pas, souvenez-vous, vous pouvez toujours faire mieux, mais vous ne trouverez jamais mieux que la marche avec Dieu. Vous pouvez toujours faire mieux, mais vous ne trouverez jamais mieux. Ne cherchez pas ailleurs ce que Dieu vous propose. Ne cherchez pas autrement ce que Dieu est prêt à vous donner. Et retenez comme exemple de persévérance ceux qui vous ont précédé. Ézéchias était un bel exemple. Il a décidé de faire ce qui était bien, ce qui était droit, ce qui était vrai. Et Dieu l'a honoré. Ce qui est noble sont pour ceux qui ont un cœur noble et qui veulent accomplir de nobles causes. Plaise à Dieu que notre vie chrétienne soit ainsi et qu'ainsi nous puissions le glorifier et continuer jusqu'à la fin avec persévérance. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité. Nous sommes heureux d'être à toi, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux de te louer, de te bénir et de te remercier pour ta fidélité. Seigneur, ta parole, elle peut changer quelque chose en nous, elle peut tout changer d'ailleurs en nous et elle peut faire une œuvre glorieuse là maintenant. Je prie que tu étendes ta main et que tu te manifestes maintenant. Je prie que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je prie pour que l'Éternel soit celui qui sera glorifié encore dans les semaines et dans les mois et dans les années à venir, si tu devais tarder. Merci Seigneur d'encourager mon frère, ma sœur, et de lui donner l'envie de persévérer, de ne pas renoncer, l'envie de poursuivre parce que le but, il est toujours devant et le plan qui se déroule sera parfait quand il sera complètement accompli. Alors continue ton œuvre dans la vie de ces bien-aimés. Que ton nom soit loué pour ces instants. Merci de nous raccompagner dans ta paix. Merci de bénir la fête tout à l'heure. Merci de bénir ce temps et que des hommes et des femmes entrent dans le ciel en acceptant Jésus cet après-midi. C'est ce que nous te demandons. Merci pour le peuple de Dieu qui aime ton service et qui aime ta présence. À toi l'honneur et la gloire. Amen.